en particulier. L'amour est aussi dans le lien de la paix. La paix, c'est quoi la paix? Est-ce que c'est l'absence de conflit? C'est, en tout cas, c'est un départ. Pardon? Dans l'unité, oui, c'est ça. Il y a la paix. Alors, le... OK. Alors, si on chicane pas entre mari et femme, là, pendant une semaine, c'est parce qu'on a la paix. C'est ça? C'est une bonne description de la paix. On était chacun dans notre chambre. Un est en haut, l'autre est en bas, puis on ne s'est pas tiré de roche pendant une semaine. On a gardé la paix. C'est ça? C'est ça le sens de la paix ici? Non, non, c'est pas tout à fait ça, le sens de la paix ici, là. Il y a mieux que ça, en tout cas. Oui, Claudette. Oui. Tu procures la paix. Tu n'es pas juste en paix, mais tu procures la paix. Heureux ceux, les artisans de paix, vont être appelés fils de Dieu. Tu l'as, s'efforcer de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix en procurant la paix. Pas juste en arrêtant la guerre, mais en étant actif à produire la paix, à produire l'harmonie, à produire les bonnes relations les uns avec les autres. Ça, c'est la paix. Pas juste l'absence de conflit, mais la production de bien-être autour de nous. Le mot en hébreu, la paix, shalom. Les juifs se saluent, shalom, paix. Et c'est plus que, OK, on se bat pas, mais qu'en réalité, que toute la bénédiction de Dieu soit autour de toi, que Dieu te donne la paix. On dit la paix du cœur aussi. Toute cette notion de harmonie. L'unité, elle va s'appuyer sur des valeurs morales et l'unité aussi, elle va s'appuyer, d'après les versets 4 à 6, sur des vérités fondamentales. Efforcez-vous dans la communauté chrétienne à conserver le lien de la paix. L'esprit vous unit. Conservez ça et conservez ça d'abord dans la notion de nos valeurs à privilégier. Comme je dis, toutes ces 6 valeurs-là, ils étaient en Jésus. Je trouve en Jésus l'humilité, la douceur, la patience, le soutien, l'amour, la paix. Mais aussi, je trouve en Jésus la vérité. Et il va nous dire aussi, à partir du verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, verset 4 plutôt, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Et là, il va mentionner 7 vérités fondamentales sur lesquelles notre unité d'Église doit être bâtie. Si on est pour être des chrétiens qui travaillent ensemble, nous efforçons à conserver l'unité, quelle vérité est-ce que l'on a en commun? Il y en a 7. Lesquelles? Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, une seule vocation. Qu'est-ce que ça dit, ça? Non, une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, puis un seul Dieu. OK, alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces 7-là? On est, l'unité chrétienne se bâtit sur le fait que nous sommes un seul corps. On parle de quoi? Le corps de Christ. C'est quoi le corps de Christ? L'Église. Est-ce que c'est l'Église locale? Nous, on forme une Église locale. Est-ce que c'est ça le corps? Puis l'église Alliance du Congo où Simon va, eux autres, c'est une autre église locale, mais c'est un autre corps. On a tout un seul corps. Tous ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu forment le même corps. L'Église universelle forme ce corps. C'est un organisme vivant dans lequel Jésus habite et le Saint-Esprit, en réalité, habite aussi et unit toutes choses. Un seul corps, l'Église. Un seul Esprit. Lequel? Le Saint-Esprit. En quoi est-ce qui est essentiel à l'unité chrétienne? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on lui reconnaît à l'Esprit de Dieu? Il habite en tous aussi. Il y a un seul Esprit qui nous habite. Il y a un seul Esprit, comme vous avez été appelé. Il y a un seul corps et un seul Esprit. Et il dit aussi l'unité de l'Esprit, parce que l'Esprit nous habite. Le Saint-Esprit qui habite chaque croyant pour le diriger, pour l'utiliser dans le corps de Christ. Il y a une seule espérance. Quelle est cette espérance-là? OK. Entre autres. Mais c'est, je ne veux pas rajouter ça. Là. Évidemment, David a prêché plusieurs messages sur le retour. Il faut que ça soit important. une seule espérance. Oui, la venue de Jésus, mais qu'est-ce qu'elle va apporter, la venue de Jésus? Oui, c'est bien. Puis qu'est-ce qu'elle va apporter, la résurrection? La vie éternelle. Est-ce que vous ne l'avez pas déjà? Est-ce que vous l'avez dans toute sa dimension? OK. Alors, notre espérance est de pouvoir jouir de la pleine possession de la vie éternelle. Puis la vie éternelle, ça veut dire la communion avec Dieu face à face. Alors, quelle est notre espérance pour arriver à là? Le retour de Christ. Alors, c'est pas faux, là. C'est ce moment-là qui va déclencher l'appropriation maximale de la vie éternelle. Il dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés, mais il dit, on le vit pas encore, mais on l'attend avec persévérance. Parce que Christ va revenir, puis il va transformer notre corps corruptible, encore incorruptible, puis là, on va avoir la dimension éternelle de la vie éternelle. Une seule espérance. La vie éternelle. La communion parfaite avec Christ. Et cette espérance-là, ben, le point de départ, c'est soit la mort pour le chrétien, soit le retour de Jésus-Christ. C'est notre espérance. Une seule espérance par notre vocation, par l'appel. Vocation, appel, la même chose. C'est ce que ça veut dire. Il y a aussi, finalement, verset 5, un seul Seigneur. Qui est Seigneur? C'est dur des questions de même, là. Jésus est notre Seigneur et notre Maître. Il est le grand architecte de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Et pour qu'il y ait l'unité dans l'Église, il faut reconnaître la personne de Jésus. Dans les églises du monde, Église, religion du monde, on est prêt à accepter qu'il y a un Dieu en quelque part, puis qu'il y a un grand créateur, puis que c'est, on a tous le même Dieu, puis le Dieu des bouddhistes, puis le Dieu des juifs, puis le Dieu des musulmans, c'est tout le même Dieu. Mais on va dire Jésus est Dieu, et là soudainement, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. La seigneurie, la personne et le ministère, la position d'autorité de Jésus est absolument inconditionnelle pour l'unité. Est-ce qu'on peut avoir de l'unité avec les bouddhistes ou avec des musulmans? Non. On peut définir Dieu, mais finalement, il y a un maître de notre vie, puis il se décrit en la personne de Jésus-Christ, le grand architecte qui a bâti son église. Et par conséquent, lui est Dieu. Fait que les autres dieux que l'on parle, c'est pas des dieux, c'est des divinités étrangères. Un seul Seigneur. Finalement, pas finalement, il en reste deux, à verset 5, il y a un seul Seigneur et une seule foi. Qu'est-ce qu'on parle par le mot foi ici? Une seule foi. Pardon? OK. OK. Alors ça, ce sont des... Très bien, ce sont des éléments de foi. Je vous rappelle l'Évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Si vous percevez, Christ est mort, il s'est incarné, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est... Alors, il y a des éléments de foi. Une seule foi, il y a deux sens au mot foi dans les Écritures. Foi dans le sens confiance et foi dans le sens confession de foi, confession de doctrine du christianisme. Alors, il y a une seule foi. Je pense qu'ici, ça parle plus de... Beaucoup de gens ont la foi dans n'importe quoi, mais il y a un seul... Quand Paul va parler à Timothée, il va dire « Garde le bon dépôt de la foi ». C'est quoi le dépôt de la foi? C'est l'Évangile, ce sont les vérités essentielles que l'on trouve dans la parole de Dieu. Ça, c'est le dépôt qui a été donné une fois pour toutes aux saints. Alors, il y a une seule foi, le christianisme, qui est basé sur l'enseignement des apôtres, qui a été transmis une fois pour toutes, puis qui est conservé pour nous dans la parole de Dieu. Une seule foi, un seul livre. Les chrétiens doivent croire et vivre selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Pas 32 livres à côté. Vous venez à l'église, vous venez avec votre Bible, parce que c'est la base de votre foi et de votre conduite. Il y a une seule foi, celle qui est révélée dans les Écritures. Et ça, c'est la base de l'unité chrétienne. Les Écritures, dans le sens les enseignements que les apôtres nous ont transmis. Une seule foi, finalement. Un seul baptême. De qu'est-ce qu'on parle ici? Mouchi. Il y a un seul baptême. Lequel? Ouais. Parce qu'on regarde les fondements de l'Église. Et si nous sommes, nous devons conserver le lien de l'Esprit, c'est parce que chacun d'entre nous, d'après les Écritures, nous avons tous été abreuvés d'un même Esprit. On a tous été plongés dans le corps de Christ, on a tous été baptisés du Saint-Esprit. Il y a un seul baptême. Quel est ce baptême-là? Le baptême de l'Esprit. Quand on parle du baptême d'eau, est-ce que c'est contradictoire? Quelle différence qu'entre le baptême de l'Esprit et le baptême de l'eau? Alors, ça se ressemble un petit peu? Jean-Pierre, tu disais quelque chose? Il y en a un qui est visible. La manifestation visible de qu'est-ce qui s'est passé de façon invisible. Alors, le baptême d'eau est un symbole visible de la réalité qui est fondamentale à l'Église, le baptême de l'Esprit. Si on tournait dans Romains chapitre 6, par exemple, vous avez tous été, baptisés en Jésus-Christ. Ce baptême-là, vous avez été fait une même plante avec lui, vous êtes ressuscité avec lui. Tout ce baptême de l'Esprit, il parle toujours du baptême de l'Esprit, ce qui fait de nous... Des fois, j'entends des gens de l'Église catholique qui disent « Nous sommes tous les baptisés. » Puis j'ai dit « Oui, si, je fais partie de ceux-là. » Mais on ne veut pas dire la même chose. Eux, ils parlent « Tu as reçu un sacrement, alors on est des baptisés. » Mais j'ai dit « Moi aussi, ce qui fait que je suis un chrétien, c'est parce que j'ai été baptisé. » Mais j'ai été baptisé du Saint-Esprit, par exemple. C'est parce que ça, c'est l'enseignement des Écritures. C'est le baptême de l'Esprit qui caractérise le fait qu'on est des enfants de Dieu. Un seul baptême, le baptême de l'Esprit qui nous incorpore au corps de Christ, qui nous identifie à son peuple. Et finalement, un seul Dieu et Père. Nous sommes monothéistes. Évidemment, on ne croit pas à une multiplication de Dieu. Il y a un seul Dieu et il est Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous, en tous. Ça ressemble beaucoup à l'omniscience, omniprésence puis omnipotence que l'on avait. On reconnaît un seul Dieu, notre Père Céleste, qui est souverain, totalement au contrôle de nos vies puis comme de l'univers. Paul, il nous dit de marcher d'une manière digne, puis on, on est appelé pour marcher d'une manière digne d'abord à marcher dans l'unité du corps. Vous vous souvenez Jésus, en terminant, quand il, à sa prière sacerdotale, quelle était une des grandes prières, un des grands éléments de sa prière de Jean chapitre 17? Qu'il soit l'unité. L'unité, c'est fondamental pour l'épanouissement de l'Église et la propagation de l'Église. Jean chapitre 17, verset 11, peut-être on peut terminer par cette prière-là du Seigneur. Jean 17, 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Ça, c'était sa prière. Regardez maintenant le verset 20. C'est pas juste pour eux, pour les 12 apôtres qui étaient avec lui, là. C'est pas juste pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leur parole. Jésus a prié non seulement pour l'unité des apôtres, mais pour ceux qui allaient croire, et regardez verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Pourquoi? Parce que pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit afin qu'on soit un, puis aussi afin que l'Église puisse refléter dans le monde sa responsabilité. Trois appels de Éphésiens 4, 1 à 16 à marcher dignement, à maintenir l'unité du corps. La deuxième qu'on va voir plus tard, à jouer notre rôle. Dans chacun de nous, Dieu nous a donné un rôle. Et troisièmement, à chercher la maturité. L'unité aussi, mais à l'édification, la maturité du corps. Puis ça va être une autre fois. Seigneur notre Dieu, merci encore pour tout ce que tu as investi en nous. De nous, Seigneur, maintenant, de réaliser le privilège que nous avons de te connaître, d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, d'avoir Christ qui habite en nous et qui veut prendre toute la place. Seigneur, de nous maintenant de manifester ça dans notre vie quotidienne, de marcher d'une manière digne de l'appel que tu nous as lancé, de façon individuelle, comme dans l'Église. Et Seigneur, de nous en premier de rechercher cette unité-là, de unité dans le corps de Christ. On est tous baptisés de l'Esprit, mais pour former un seul corps. Alors Seigneur, donne-nous ces valeurs qu'on a mentionnées d'humilité, de douceur, de paix, d'amour. Et Seigneur Dieu, donne-nous aussi de nous concentrer avec les frères et les sœurs sur ces vérités fondamentales que forme l'Église. Et Seigneur Dieu, donne-nous ainsi, à travers notre unité, de te refléter dans le monde, afin que d'autres viennent à toi. Et Seigneur Dieu, d'autres soient sauvés. D'autres aient une communion parfaite avec toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.